La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Nous avons cette semaine une quatrième émission avec Sylvestre Maurice, qui est spécialiste entre autres de l'exploration de la planète Mars et qui nous a expliqué pendant trois belles émissions ce qu'on cherchait sur la planète Mars et les résultats particuliers au sujet de l'habitabilité de cette planète et de la possibilité qu'il y ait eu de la vie dans le passé. Alors aujourd'hui, cette nouvelle émission va être un peu différente. Je vais lui demander de nous expliquer comment se propage le son sur la planète Mars. Parce que la vitesse du son dépend de l'atmosphère, dépend des conditions. Et puis aussi, il y a des phénomènes un petit peu bizarres qui peuvent se produire. Alors Sylvestre, tu nous racontes comment le son se propage sur la planète Mars et comment vous l'étudiez ?
Oui, bonjour Sylvie. Alors effectivement, on est un peu notre quatrième épisode de Mars avec quelque chose d'un petit peu étonnant. Ce sont les sons. Alors il faut savoir que sur Mars, on avait l'impression d'avoir tout fait. On avait des images, c'était la vue, on avait touché avec nos petits bras, que sont les rovers, le sol. On avait fait un peu de cuisine, c'est-à-dire qu'on avait prélevé de la matière qu'on a chauffée, c'était un peu le goût, l'odorat. Et on n'avait jamais fait, étonnamment, l'ouïe, c'est-à-dire qu'on était passé à côté du paysage acoustique de Mars. Chose qu'on a rectifiée avec persévérance, puisqu'on emmène un microphone. Le microphone est d'ailleurs développé à Toulouse par l'école LISAE, en partenariat avec l'IRAP, et ça deviendra le premier microphone à acquérir des sons extraterrestres. Alors, il y a eu des tentatives dans le passé, un peu sur une planète qui s'appelle Titan, autour de Saturne, ça n'a pas très bien marché, une autre sur Vénus. Les soviétiques, ça n'avait pas très bien marché. Là, on a véritablement, avec persévérance, la découverte du paysage acoustique de Mars. Alors, ce qu'on trouve, des choses qu'on avait calculées déjà, parce que là, l'acoustique se calcule relativement bien. La vitesse, sur Terre, on est plutôt dans les 330-340 mètres par seconde. Vous savez que ça va dépendre de l'altitude où vous êtes, ça va dépendre beaucoup de l'humidité, énormément de la température. Donc, c'est variable. Sur Mars, on trouve plutôt autour de 240. Mais là, on a une première surprise. On trouve que à basse fréquence et à haute fréquence, on n'a pas la même vitesse.
Alors attends, explique-nous avant comment vous les avez étudiés ces sons. Qui est-ce qui faisait des sons parce que tu as parlé du micro qui reçoit les sons, mais les sons ils viennent d'où? Quels sons vous avez observés?
Je rembobine les sons. Il faut savoir que Mars est une planète incroyablement silencieuse. Il y a très peu de sons, finalement, il y a très peu de bruit. Parce que, prenons l'exemple de la Terre, les sons sont les sons anthropiques, c'est-à-dire les sons que nous faisons, nous. Ce sont les sons naturels, les orages, la pluie qui tombe, le vent, des glissements de terrain, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des sons biologiques. Donc, il y a beaucoup de sources de sons. Sur Mars, il y a très peu de sources de sons. Il n'y a pas de biologique, il n'y a pas de vivant pour créer les sons. Il n'y a pas de pluie qui tombe. Il y a surtout du vent.
Et le vent, il fait du bruit ?
Le vent fait du bruit, oui. Ah. Alors, mais un bruit léger, hein. Pas non plus. C'est peut être très silencieuse. Typiquement, on est à une dizaine de, presque une vingtaine de décibels plus faibles que sur Terre, donc une planète silencieuse. Peu de sources. Nous sommes souvent la source, c'est-à-dire que nos rovers font du bruit, nos lasers qu'on tire font du bruit, notre hélicoptère Ingenuity fait du bruit. On va utiliser ces sources, principalement les lasers et Ingenuity, pour étudier la vitesse du son. Et alors, ils ont des fréquences différentes. Et d'ailleurs, une chose amusante, c'est qu'Ingenuity, ce qu'on écoute, c'est la rotation des pales, on est plutôt autour de 80-84 Hz, nous dit, tiens, il y a telle vitesse du son. Et puis, les lasers, qui sont plutôt très loin, en haute fréquence, plutôt kilohertz, c'est très, très aigu, nous disent, tiens, c'est une autre vitesse du son. On fait deux calculs, on trouve deux vitesses du son. Donc, pendant très longtemps, ça dit qu'on s'était trompé, parce que vous savez que sur Terre, que quand vous allez à un concert, que les notes aiguës et les notes graves arrivent en même temps, heureusement. Ouais. Alors, toutefois, les aigus sont atténués. Les grands mélomanes se placent souvent devant, où il y a un bon équilibre, et plus vous reculez, plus vous avez de basses par rapport aux aigus. L'atténuation, ça, on l'avait très vite calculé. Sur Mars, elle est monstrueuse. On n'entend jamais les aigus. C'est une planète de son grave. On avait fait des calculs. On a bien vérifié qu'on trouvait l'atténuation qu'on pensait. Mais la vitesse du son, normalement, elle devrait bouger en fonction de la fréquence. Et là, elle bouge. Et alors, il se trouve qu'on a trouvé des publications sur des endroits particuliers dans la stratosphère terrestre. Vous savez, la stratosphère terrestre, c'est très haut dans l'atmosphère de la Terre, où finalement, on va retrouver des conditions de pression qui sont assez semblables à ce qu'on trouve sur Mars. Et là, on a vu des publications qui disent « Ah oui, mais il y a dans des cas bien particuliers, on peut peut-être avoir des différences de vitesse. » Eh bien, c'est ce qui se passe à la surface de Mars, parce que l'atmosphère est ténue. Effectivement, la vitesse des aigus n'est pas la même à 10 mètres par seconde près que la vitesse des graves. Voilà, ce n'est pas un paysage sonore extraordinaire. Mais ça nous a servi, ce son, comme on l'a fait avec l'image, comme on l'a fait avec le toucher, enfin avec la vue, avec le toucher, à explorer une autre partie, de Mars qu'on connaissait mal. Et puisque c'est le vent, on va explorer surtout la turbulence. On va essayer de comprendre comment l'atmosphère au contact de la surface génère de la turbulence. C'est une planète extraordinaire, Mars, parce que comme il y a peu d'atmosphère, il y a des gradients, des différences de température très forts. Entre vos pieds et votre tête, il y a 40 degrés. Donc ça va créer de la turbulence. Et nous, on va utiliser les microphones pour comprendre cette turbulence. Donc, ce n'est pas simplement pour faire des beaux sons. Et je vous invite à aller sur des sites pour écouter ces sons. Vous entendez, hein. Oh, c'est pas bluffant. Hein. C'est pas bluffant, mais quand vous dites ça vient de Mars, là, vous dites, ah ouais, quand même. Et donc, un petit vent qui souffle, ou bien le tir d'un laser, ou bien un moteur qui se met en route sur le rover. Voilà, ce n'est pas des très beaux sons. Mais comme ils viennent de Mars, ils ont cette petite valeur. Alors évidemment, ils ont été numérisés, étaient transportés par radio, par les ondes radio qui nous permettent de communiquer à la vitesse de la lumière jusqu'à nous, puis décoder, puis travailler. Donc il y a tout un process qui est assez classique dans l'analyse des données. Mais ces sons nous révèlent cette turbulence. Et c'est ça qui va être intéressant. Alors, on est devenu d'un seul coup, et c'est ici à Toulouse d'ailleurs que ça se passe, des spécialistes de l'acoustique martienne. Alors, c'est donc le deuxième paysage acoustique qu'on découvre après celui de la Terre. On est devenu spécialiste de Mars, des sons, donc on continue notre chemin. En même temps, on se dit, qui d'autre a une atmosphère dans le système solaire? Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère dans le système solaire. Je parle bien de sons, hein, c'est-à-dire au sens audible, ce que notre oreille pourrait entendre. Les infrasons, on les avait déjà entendus, hein, les infrasons sur la Lune. Mmh. Là, ça se propage dans le sol, c'est des sismomètres. Donc, finalement, on va chercher où il y a des atmosphères. Donc, sur Terre, on connaît le paysage acoustique. Sur Mars, on connaît le paysage acoustique. Sur Vénus, une grosse atmosphère, très dense. Sur Titan, satellite de Saturne, une atmosphère 1 bar 5, c'est-à-dire presque comme la Terre, extraordinaire. Jupiter, Uranus, Neptune et Saturne, donc nos planètes géantes. Donc il n'y a pas tant d'atmosphères que ça, mais maintenant on est en train de les explorer. Alors on ne va pas les explorer encore in situ, même si on est en train de construire une sonde, un robot qui s'appelle la Libellule, Dragonfly, qui va voler à la surface de Titan. Extraordinaire, qui emportera des microphones. Et maintenant, on se dit, bon, allez, partout où on va aller, on va mettre des microphones, parce que le microphone de persévérance a révélé tellement de choses, des choses grand public, ça fait plaisir de faire entendre des sons, et de la vraie science.
Est-ce que tu me permets de revenir un petit peu sur la science de propagation du son? L'idée courante, c'est que ce sont des ondes pression-dilatation, et ça se propage comme ça. Et est-ce que tu veux dire qu'en plus de pression-dilatation, il faut tenir compte d'énergie qui passe dans les vibrations, rotation des molécules?
Oui, quand vous entendez un son, vous entendez un son, vous êtes content que, effectivement, compression et dépression sur votre tympan se traduit par un signal qui va jusqu'à votre cerveau. Il y a une molécule qui est poussée, qui va pousser la suivante, etc. Mais la molécule reçoit de l'énergie. Elle va le transformer en rotation, elle va le transformer en déformation. Et des constantes de temps qui sont variables. Ça nous plaît beaucoup parce que, déjà c'est nouveau, parce qu'il y a pas mal de calculs à faire. Et puis le son, c'est un peu la compréhension, c'est un peu le sens du monde. Et donc c'est une façon de regarder différente une autre planète.
Bon, c'est un peu compliqué, mais ça me semble important que les auditeurs se rendent compte justement que la notion de son n'est pas aussi simple que ça et que ça peut avoir de l'importance pour la compréhension des phénomènes, la compréhension des situations, des structures, etc. On arrive à la fin de l'émission et je voudrais te remercier, Sylvestre, pour ces quatre émissions, les trois sur l'exploration martienne et la dernière sur le son. Je crois qu'on pourrait quand même conclure par rapport à ce que les auditeurs peuvent imaginer sur le fait que ce n'est pas du tout évident d'aller sur la planète Mars pour s'y installer maintenant, qu'il y a des idées qui courent et qui sont, portées par certains personnages qui aimeraient transporter une partie de l'humanité habiter là-bas, que c'est pas du tout demain la veille qu'on va pouvoir y arriver. Et quand on voit qu'il fait froid, ou quand on voit qu'il y a une différence de température entre les pieds et la tête, que c'est irrespirable comme atmosphère, c'est pas du tout possible d'imaginer même de, comment on dit ça, terraformer, changer l'atmosphère de Mars. Ça, c'est pas du tout réaliste, n'est-ce pas?
Oui, alors, j'espère un jour, je crois qu'un astronaute peut y aller pour faire une étude scientifique. Alors, on peut faire un exercice de pensée, c'est-à-dire que vous prenez la station spatiale où évolue, par exemple, Thomas Pesquet, vous posez dans votre tête la station spatiale sur Mars, il ouvre la porte, il sort, c'est ça. C'est pas de la vie, ça, c'est de l'exploration, c'est de la survie. Effectivement, tu l'as très bien dit, c'est un milieu extrême pour lequel les humains ne sont pas faits du tout. Pourquoi? Parce que les humains, c'est un peu Darwin qui nous le dit, se sont adaptés à un autre milieu, c'est celui de la Terre. Donc nous sommes des enfants de la Terre. La Terre, c'est notre berceau. Et bien, c'est aussi notre avenir, parce que ça, pour avoir beaucoup voyagé sur Mars et ailleurs dans le système solaire, il n'y a pas d'autre Terre. Et qu'on soit très clair, ça n'exclut pas d'y aller pour faire des études scientifiques, ça n'exclut pas d'y aller en chemin pour inspirer une génération, et j'aimerais bien la voir derrière cette exploration, mais l'avenir des humains, l'avenir des hommes et des femmes, c'est bien la Terre, c'est notre berceau. Alors quelqu'un avait dit, c'était Tsiolkovsky, donc c'était au début du XXe siècle, en parlant d'astronautique, en disant « la Terre c'est le berceau de l'humanité et l'homme n'est pas fait pour vivre dans son berceau ». Eh bien si. Eh bien moi je défends une idée contraire pour avoir voyagé partout dans le système solaire et pas que sur Mars. On a fait des photos, alors nous on adore ça, quand on est sur Mars on prend des photos de la Terre, c'est un tout petit point, quand on est autour de Saturne on prend des photos de la Terre, Carl Sagan avait fait ça très bien avec la mission Voyageur, partout d'ailleurs on prend des photos de la Terre, pour nous rappeler que la Terre en elle toute seule c'est une sorte de petit vaisseau dans ce grand vide, mais surtout un vaisseau isolé, qui est tout ce qui compte pour nous, il y a des très beaux textes là-dessus, et qui est notre passé et qui est aussi notre avenir.
Eh bien, merci beaucoup Sylvestre. Bonne continuation dans tes recherches et dans tout ce qui va se passer dans l'avenir pour l'exploration du système solaire. Au revoir.
Merci Sylvie.